Billets d'Europe, animé par Daniel Bernussou de la Maison de l'Europe, Europe Direct Limousin. Daniel, le réchauffement climatique est dans tous les esprits et l'Union européenne avec le Green Deal a pris la tête de la transition climatique. Ce rôle est-il récent ?
Eh bien non, l'engagement de l'Union dans la lutte contre ce changement climatique est déjà ancien. Ainsi, en 1992, ça ne nous rajeunit pas ça, la communauté à 12 est signataire de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. En 1997, à 15 cette fois-ci, l'Union signe le protocole de Kyoto, qui entre en application en 2005 grâce à l'Union qui réussit à convaincre la Russie de le ratifier et permet donc d'atteindre le seuil. L'UE à 25 s'engage à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 8% par rapport à 1990 sur la période 2008-2012. En 2008, l'Union se dote d'un plan d'action appelé Paquet Énergie Climat, avec pour objectif à l'horizon 2020 les 3 fois 20%. Alors, réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre par rapport au niveau de 90, porter à 20% la part d'énergie renouvelable dans la consommation d'énergie de l'Union et améliorer de 20% l'efficacité énergétique. En 2014, pour prolonger la trajectoire au-delà de 2020, l'Union adopte un nouveau paquet pour le climat et l'énergie à l'horizon 2030, avec pour objectif de réduire d'au moins 40% ses émissions par rapport au niveau de 1990. Et puis il y a bien sûr le rôle de premier plan joué lors de la conférence de Paris sur le climat, la fameuse COP21, en décembre 2015, qui a débouché sur le premier traité international juridiquement contraignant sur le changement climatique. Rappelons que l'accord de Paris vise notamment à contenir la hausse globale des températures en dessous de 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle et à atteindre la neutralité carbone au cours de la seconde moitié du siècle.
Alors la COP21 a-t-elle provoqué un regain d'ambition de la commission Juncker ?
Alors 6 ans après l'échec de la conférence de Copenhague en 2009, la COP21 a été saluée comme un grand succès avec l'adoption de l'accord à l'unanimité des 196 parties, c'est-à-dire 195 pays plus l'UE. Il est entré en vigueur 10 mois plus tard, en novembre 2016, après que le seuil de ratification a été atteint. Ce seuil, c'était 55 pays représentant 55% des émissions. En 2019, il est ratifié par 183 parties sur 197. À l'échelle européenne, l'Union décide de consacrer au moins 20% de son budget 2014-2020 à l'action climatique et elle augmente sa contribution au financement international de l'action climatique. Elle renouvelle son engagement pris en 2014 pour une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40% à l'horizon 2030 et une hausse de la part des énergies renouvelables à 27% du mix énergétique, c'est-à-dire du bouquet donc énergétique. En 2016, la Commission avance des propositions pour le passage vers une économie à faible intensité de carbone. L'UE devrait réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 60% d'ici 2040 et 80% d'ici à 2050, toujours par rapport au niveau de 1990. Alors cela entraîne une révision en 2018 à la hausse des objectifs pour 2030. Objectif contraignant, au moins 40% de réduction des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 90. Autre objectif contraignant, porter à 32% la part des énergies renouvelables dans la production d'énergie. Objectif seulement indicatif, améliorer d'au moins 32,5% l'efficacité énergétique par rapport aux projections faites en 2007.
Alors comment la commission Juncker compte-t-elle atteindre ses objectifs 2020 ?
Pour la commission, tous les secteurs de l'économie doivent contribuer à la transition énergétique en fonction de leur potentiel économique et technologique. La production d'électricité, l'industrie, les bâtiments, la construction, l'agriculture, etc. Dans le secteur de l'industrie, les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne reposent notamment sur le marché du carbone européen, sur lequel s'échangent depuis 2005 des « entre guillemets droits à polluer » ou « système d'échange de quotas d'émissions ». Un quota donne le droit d'émettre une tonne de dioxyde de carbone. Le niveau global des émissions de gaz à effet de serre autorisées dans l'UE est plafonné et c'est dans cette limite que les industries peuvent acheter ou vendre des quotas d'émissions selon leurs besoins. Alors les secteurs non concernés par le marché du carbone européen, les transports, agriculture, logement et déchets, qui représentent la moitié des émissions de gaz à effet de serre de l'UE, doivent abaisser leurs émissions de 10% d'ici à 2020 par rapport à 2005 et de 30% pour la période 2021-2030, toujours par rapport à 2005. Pour réaliser ces objectifs, un nouveau règlement 2018 organise, entre guillemets, un partage de l'effort entre les États membres, partage fondé sur la nécessité de proportionner les efforts de chaque membre en fonction de leur potentiel lié au PIB par habitant.
Alors, quel bilan peut-on dresser à l'issue de la mandature Juncker ?
Alors, s'agissant de l'objectif des 3 fois 20% en 2020, la réduction globale des émissions de gaz à effet de serre par rapport au niveau 1990 est atteinte, avec cependant des performances disparates. Ainsi, en 2019, au Luxembourg, plus de 20 tonnes de GES sont émises par habitant. Un peu plus de 5 tonnes seulement en Suède ou à Malte, et pas tout à fait 7 tonnes en France, pour une moyenne européenne de près de 8 tonnes. Les 20% de part de renouvelables dans le mix énergétique sont atteints avec, là encore, des performances nationales diverses. Ainsi sont en retard la France, nucléaire oblige, mais aussi la Pologne, charbon oblige. Par contre, l'objectif de l'amélioration de 20% de l'efficacité énergétique ne l'est pas. Par son volontarisme, l'Union fait figure à la fin de la décennie 2010 de modèle dans l'action climatique. Pourtant, des analystes pointent un manque d'ambition au niveau des institutions européennes comme des États. Avec la nouvelle commission von der Leyen, on passe la vitesse supérieure.